Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer un nouveau format pour Dream Team, la Ligue des futurs champions. Et voilà l'idée. Derrière Decathlon, l'équipe Nike, beIN Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîtes qui deviendront les champions de demain. Sur un format Pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leur ambition. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Ligue des futurs champions avec Barthélemy que je connais depuis assez longtemps. Barthélemy, c'est un des podcasteurs indépendants les plus connus de la sphère sportive puisqu'il rencontre à travers son podcast Extraterrien plein de médaillés, plein de gens qui sont pas forcément médaillés, mais en tout cas plein de sportifs qui viennent raconter leur trajectoire, certains bons tips qu'ils peuvent partager à la communauté de Barthélemy. Donc je suis ravi, Barthélemy, que tu aies accepté cette invitation.
Bah écoute, salut Pierre, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de passer parmi toutes ces belles têtes, en tout cas de l'entrepreneuriat et du monde du sport. Ton podcast, je l'écoute avec assiduité depuis le premier épisode d'ailleurs. Donc ça me fait un peu drôle d'être là et je vais essayer d'être au niveau quand même.
Non mais tu vois, forcément être au niveau, t'as un parcours d'entrepreneur, aussi un peu de patron d'un incubateur, enfin tu pourras expliquer un peu tout ça, mais surtout la raison pour laquelle on s'est dit que c'était un peu le bon moment de faire cet épisode, c'est que Extraterrien, c'est plus Bart dans son coin qui interview des gens, c'est une boîte avec des gens qui sont autour de toi. Alors c'est pas encore on n'est pas sur 1000 employés, tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est aujourd'hui, mais bref, c'est quelque chose qui est devenu une vraie boîte avec un modèle économique et puis surtout des nouvelles intentions de développement, et c'est pour ça aussi qu'on s'était dit que c'était bon moment. Mais avant de parler de tout ça, et encore une fois merci d'être là Bart, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un peu les 2-3 expériences les plus significatives dans ton parcours professionnel?
Ouais, bien sûr. Bah du coup je m'appelle Barthélemy, mais hormis la police et les impôts, j'aime bien dire que tout le monde m'appelle Bart. J'ai 33 ans, je suis papa de 2 petits garçons, 10 et bientôt 4 ans. Voilà, et je m'estime très chanceux dans la vie, j'ai beaucoup d'énergie, je fais beaucoup de choses, je suis un peu hyperactif, et pas mal d'ambition. Et pour te dire rapidement mes expériences professionnelles, j'ai très vite été entrepreneur, sûrement parce que j'avais du mal à canaliser cette énergie, donc j'ai monté plusieurs boîtes, un négoce de t-shirts, ensuite une agence, ensuite un groupe de sites d'affiliation. Voilà, et puis il y a 5 ans, j'avais rejoint effectivement School Lab pour opérer et diriger leur cellule liée à l'entrepreneuriat. Donc c'est un cabinet de conseil en innovation, on va dire, pour faire simple. Et il y avait toute une partie qui était dédiée à la formation d'entrepreneurs et d'intrapreneurs. Donc moi, je gérais cette partie-là et on accompagnait entre 200 et 250 personnalité par an. Et depuis bientôt un an et demi, j'ai décidé en fait de me consacrer à plein temps à ce projet qui était un projet complètement passion.
Ouais. Side project au départ.
Ouais, vraiment, ouais. Exactement, c'était pour m'amuser. J'ai décidé de me consacrer à 100% à Extraterrien, d'en faire effectivement une vraie boîte, un vrai média. Et aujourd'hui, on est en train de se structurer et d'accélérer, donc ça fait super plaisir. Mais effectivement, c'est parti d'un souhait, simplement d'écouter des récits de sportifs qu'on n'entendait pas forcément dans les médias traditionnels. Et comme moi, j'étais un gros auditeur de podcasts, notamment durant mes footings, j'écoutais beaucoup d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise, de businessmen, de businesswoman. Et un jour, j'ai eu envie d'écouter des athlètes. J'en ai pas trouvé, voilà, sur la sphère française. Et je me suis dit, tiens, si ça n'existe pas, pourquoi pas le faire?
Ouais.
Et pendant 3 ans, effectivement, c'était le soir et les week-ends, un peu, comme tu peux le connaître, des fois un peu artisanal, mais en se professionnalisant et toujours avec l'intention d'en faire une boîte. Et aujourd'hui, je suis super content parce que on est en train de devenir un média, on est en train de beaucoup se développer sur la vidéo, on a lancé une agence aussi,
ouais,
où on a lancé 3 podcasts de marque là ces 18 derniers mois, et on réfléchit à de nouvelles opportunités. On a aussi lancé un business de formation pour accompagner d'autres petits créateurs indépendants à monétiser.
Ouais.
Et peut-être, pourquoi pas, avec des velléités plus tard, de faire un label ou un network avec des créateurs autour de l'audio, parce que c'est ce qu'on maîtrise le mieux.
Ouais.
Mais avec l'intention de se développer sur de la vidéo, sur de l'écrit et sur d'autres canaux de communication.
Tu as commencé à lâcher les infos sur la diversification de ton business, mais si on en revient à ce side business qui est devenu un peu plus gros, tu disais il n'y avait pas forcément de podcast français qui traitait le sujet. Est-ce que, comme certains créateurs de boîtes, quand tu te lances, tu regardes ce qui se fait à l'étranger, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait et est-ce que tu avais d'autres modèles d'inspiration qui t'ont poussé à te lancer dans Extraterrien?
Ouais, bien sûr. Écoute, pour être hyper sincère, il y avait quand même 2-3 podcasts qui s'étaient lancés avant moi.
Ouais.
Je pense à Ultra Talk de Arnaud Manzanini, mais c'était uniquement de l'outdoor et de l'aventure. Il y avait Clémentine Sarla, elle avait fait 4 ou 5 épisodes. Malheureusement, son podcast s'est arrêté quasiment au moment où moi je me lançais.
Mm-hmm.
Puis elle en faisait un par mois, ce qui n'était pas assez pour mon appétit.
Ouais. Voilà. Ton hyperactivité.
Et après, aux États-Unis, forcément, il y a l'exemple de Joe Rogan qui a commencé en interviewant des combattants UFC et dans tous les autres sports de combat et qu'on a fait aujourd'hui le plus gros podcast à l'international. Tim Ferriss avait très souvent des athlètes de haut niveau aussi dans des sports un peu exotiques, beaucoup voilà. Il y avait un peu d'alpinistes, il y avait pas mal d'aventuriers, beaucoup de personnalités qui faisaient de l'ultra. Et enfin, Rich Roll. Je ne sais pas si ça te dit.
Non, je connais
pas. C'est un triathlète vegan, très branché santé, qui doit avoir aujourd'hui 50-60 ans et qui, fait un podcast très artisanal, mais qui a eu un super développement en interviewant à la fois des athlètes de haut niveau et des experts santé.
Ouais.
Aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 600 ou 700 épisodes. Voilà, c'est le podcast à l'américaine, hein, tu vois, ça monétise énormément avec des marques de compléments alimentaires, des remèdes miracles pour redevenir jeune. Mais ça peut paraître un peu risible, mais en tout cas, moi, ça m'inspirait dans les contenus, dans la qualité, la profondeur des échanges, parce que c'est des podcasts à chaque fois de 2 heures, 3 heures, avec des personnalités qui se dévoilent vraiment à 100% et qui partagent leur secret de réussite, on va dire.
Tu disais aussi, tu étais entrepreneur avant d'être patron de l'incubation chez Schoolable, et puis tu avais quand même ce truc qui te grattait et tu as toujours voulu redevenir entrepreneur. Tu as quand même dit tout à l'heure, quand j'ai lancé ce podcast, j'avais déjà un peu la vision, l'ambition d'en faire une boîte, alors que c'était un side project. Est-ce que déjà tu confirmes ces propos et quelle boîte tu t'imaginais faire derrière ce side project en fait? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce qu'allait devenir Extraterrien?
C'est une super bonne question. Écoute, pour être hyper sincère avec toi, moi je me lance en 2019 et je vois quelques créateurs français qui commencent doucement à monétiser. Ça commence à légèrement en parler. Mathieu Stéphanie, Pauline Lignot, Clémentine Gallet aussi de Bliss, qui sont pour moi tous les trois des rôles modèles vraiment.
Ouais.
Pénélope Boeuf aussi, je ne vais pas l'oublier.
Ouais.
Donc, je me dis qu'il y a des opportunités. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est encore très éclaté, que chacune prend des virages différents, des trajectoires différentes. Donc, je me mets à observer ces gens-là et je me dis, ça va, je vais sûrement m'inspirer d'eux. Moi, je suis tout petit, eux, ils existent depuis 2-3 ans déjà. Donc, je suis très en veille, je ne sais pas ce que je vais faire. Par contre, je sais que je sais saisir des opportunités et que je vais être à l'écoute de ce qui m'intéresse, ce qui me plaît. Il y a quand même le modèle américain prévalent où tu vends ce qu'on appelle du pré-roll en host-read. Alors, pour faire tout simplement, c'est quand vous entendez un podcasteur qui va lire ou réciter un message publicitaire au début d'un podcast, en milieu ou en fin. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le pré-roll. Donc ça, c'est quand même le modèle prévalent. Et il y a une deuxième ambition, c'est que je voulais absolument monter un business dans le sport.
Ouais.
Et je voulais bosser dans le sport. Ça, c'était une certitude, ça me démangeait. Et je m'étais dit, ce podcast, c'est un merveilleux moyen de me rendre visible dans cet écosystème-là. C'est un écosystème qui me fait vibrer parce que je voulais être tennisman professionnel quand j'étais petit. Donc, je le comprends un peu. Je me suis dit, voilà, ça va me développer ma notoriété, ça va m'ouvrir des portes. Je sais pas où je vais aller, je sais qu'il existe des modèles économiques qui sont en train d'arriver. J'ai envie d'en être.
Ouais.
Je suis un des premiers dans le sport.
Ouais.
Allons-y à fond, faisons-le sérieusement. Et c'est sûr qu'une belle opportunité va arriver. Et l'opportunité, c'était que ce podcast devienne elle-même l'opportunité, ouais. Tu vois, entre guillemets.
Pour tes invités, la première question que tu poses habituellement, c'est quel est ton premier souvenir de sport ?
Ouais.
Moi, je vais te citer le premier souvenir de toi. Enfin, que j'ai de toi, c'est notamment ton site internet qui référençait à la fois des programmes d'entraînement et des programmes de nutrition. Voilà. Ouais. Tu peux nous réexpliquer quand même comme ça, parce que c'est peut-être ton premier ancrage business dans le monde du sport qui est du coup précédent, qui précède Extraterrien. Est-ce que ça t'a convaincu que tu voulais bosser dans ce truc-là ? Cet actif que tu as créé, est-ce que tu t'en sers encore ? Enfin, il est où dans ton écosystème ?
Ouais, alors c'est un site qui s'appelle naturalathleteclub.com.
C'est ça. J'ai oublié le nom, mais c'est ça.
J'en suis pas fier. Okay. Parce que c'était vraiment mon terrain d'expérimentation à l'entrepreneuriat et du web. Donc c'est un site qui a plus de 15 ans maintenant.
Ouais.
D'ailleurs, qui est en cours de vente.
D'accord.
Pour être hyper transparent avec toi.
Chez Alvo, non ? Chez Mathieu Stéphanie.
Ça aurait pu. On a un tout petit peu. Pour moi, la grosse valeur de Mathieu Stéphanie et de Alvo, c'est de te mettre en relation avec des potentiels acheteurs. Nous, on avait déjà beaucoup de clients à qui on pouvait apporter de la valeur, ouais. Donc on les a contactés directement.
Ouais.
On est passé en direct. Et pour des sites, tu vois...
Alors, peut-être explique ce que faisait ce site, parce que je l'ai mal fait volontiers. Ouais.
Eh bien, écoute, il faisait mille choses, parce que c'était vraiment mon terrain d'exploration de plombier du web. J'aime bien dire ça. À un moment, si tu veux, donc, je me suis mis à lancer une agence, tu vois, à développer des sites internet pour des hôteliers, des restaurateurs. Et on voyait que voilà, ils avaient besoin en fait d'expérimentation, de connaissances marketing. Et nous, en fait, sur ce site Natural Athlete Club, on a tout fait. On a fait de l'affiliation, on testait des techniques de SEO, on testait de la vente de formation, on a lancé une chaîne YouTube aussi. On a pour connaître et comprendre les enjeux de la viralité sur YouTube et de la monétisation sur YouTube. On a développé une très grosse base email, parce qu'on a plus de 50 000 emails, tu vois, sur des sujets de santé, de sport. Malheureusement, en fait, on s'est rendu compte que l'attrait un petit peu du gain nous a dirigé vers ce qui nous rapportait le plus. Et ce qui nous rapportait le plus, c'était faire la promotion des méthodes miracles. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, les gens recherchent des méthodes un peu des méthodes rapides, des quick wins. Et donc, on s'est remis à
faire de l'affiliation pour driver du trafic
vers ces produits.
Ouais, vers ces produits-là.
Voilà, pas glorieux. Et aujourd'hui, donc, on a quand même redressé l'image de marque pour avoir un site beaucoup plus santé, beaucoup plus quali. Et c'est ça qui nous permet de le vendre aujourd'hui. Et effectivement, ça m'a permis, en tout cas pendant longtemps, d'avoir ce terrain d'expression autour du sport et de me rendre compte à quel point c'était important pour moi.
Ouais.
Et finalement, c'est en le faisant 10 ans et après 10 ans d'expérimentation que je me suis dit, tiens, mais en fait, j'ai envie de travailler dans ce secteur-là à plein temps, quoi.
Ouais. T'as un petit peu abordé la genèse de Extraterrien. C'était en fait un déficit d'offres par rapport à toi, tes usages. Il n'y avait rien qui existait. En plus, t'étais passionné par cet écosystème. Comment t'es venu le nom Extraterrien, que je trouve, moi, génial, je te l'ai toujours dit. Et peut-être, entre le moment où tu as l'idée d'Extraterrien, est-ce que tu sais d'ores et déjà où est-ce que tu veux l'emmener, où est-ce que quand tu commences parce qu'aujourd'hui t'as accumulé 3 millions d'écoutes, t'as plus de 200 athlètes, quand tu te lances, est-ce que tu aurais été en capacité de faire cette photographie à plus 3 ou 4, enfin 3, 4 années à plus, enfin voilà, comment tu te projetais au moment où t'as créé Extraterrien, est-ce qui t'est venu en tête avec ce nom notamment?
Alors écoute, pour
question un peu mal posée, désolé.
Sur le nom, ce que j'avais fait à l'époque, c'était un mood board avec effectivement des mots qui revenaient souvent dans le monde du sport. Et j'avais vu extraterrestre, tu vois.
Ouais.
Et je m'étais dit, tiens, il y a peut-être un petit jeu de mots intéressant. Je sais plus exactement comment est venue l'épiphanie, pour être très transparent avec toi. Mais j'avais eu des trucs du genre super humain ou extra humain. Il y avait eu extraterrien dans le lot.
Ouais.
Ça avait tout de suite donné le ton du podcast, parce que je voulais interviewer des personnes extraordinaires, mais avec un angle très humain et très naturel, très spontané. Et donc ça, cet ADN, je l'ai toujours gardé. Et ça m'arrive, tu vois, même dans des interviews, et d'aborder des sujets hyper intimes, hyper concrets avec des athlètes. Et des fois, les montrer sous un jour pas glorieux, pas spécialement glorieux. Donc ça, j'ai gardé cet ADN-là, et je pense que ça en fait partie. Là, aujourd'hui, on a envie de développer vraiment un espace médiatique autour de l'inspiration, de permettre en fait à tout un chacun d'aller chercher de l'inspiration dans le monde du sport via Extraterrien. Donc on va développer effectivement beaucoup les plateformes vidéo et aussi le site tu vois, qui est en chantier là actuellement. Est-ce qu'à l'époque, je pensais à ça? Pas du tout. Encore une fois, c'était vraiment, je le faisais vraiment par en apprenant. Alors, j'avais quand même un gros ADN média parce qu'on avait monté pas mal de sites d'affiliation, donc j'avais une appétence pour créer du contenu et c'était ce que j'aimais. En faire un gros média. Enfin, aujourd'hui, la vision, c'est vraiment de le transformer, d'en faire un média à part entière, solide. À l'époque, ça me faisait un petit peu peur parce que je voyais les modèles de revenus des médias et ça reste une économie quand même assez fragile dans laquelle il faut beaucoup se diversifier, dans laquelle il faut expérimenter beaucoup de choses avec certaines sources de revenus, avec très peu de marge, de gros investissements, aussi un besoin en fonds de roulement assez important parce que tu vas lancer voilà, des nouveaux formats et ensuite, en fonction des résultats, voir un peu les différents canaux de monétisation qui peuvent exister autour de ça. Tu es aussi à la merci des plateformes, des audiences. Donc, c'est un écosystème assez fragile. Donc, à l'époque, ça m'aurait fait peur. Là, aujourd'hui, ça me stimule parce que je vois qu'il y a des opportunités qui sont nouvelles, des choses qu'on sait développer et qu'on arrive à valoriser avec des marques, tu vois, tout simplement, soit via du service, soit en espace publicitaire ou via d'autres formes d'ailleurs, on est en train de réfléchir. Donc pour être hyper sincère, vraiment, je le faisais plutôt pour être à l'écoute et pour aller chercher des opportunités.
Ouais. Et donc, si on en revient aujourd'hui au, enfin, le business model le plus qui rapporte le plus d'argent à Extraterrien Corporation, tu as créé du coup une audience sur un propos, un narratif qui est autour des sportifs, de leur trajectoire. Et donc, ça réunit à peu près... Tu fais combien en moyenne par épisode? C'est quoi? C'est 100 000, 150 000
On fait pas par épisode, on fait par mois. Effectivement, on a passé la barre là, il y a quelques mois, des 100 000 écoutes par mois.
Donc, tu as 100 000 écoutes... t'as 100 000 personnes qui t'écoutent par mois. Donc, c'est... En plus, je sais pas, tu dois avoir une très bonne rétention parce que on veut aller jusqu'au bout de l'histoire souvent avec tes athlètes. Ça, c'est de l'or en barre pour des annonceurs parce qu'en fait, ils se positionnent sur une communauté plutôt très bien qualifié, sur un contenu très très qualitatif. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, un peu sans nous donner forcément les chiffres, mais en pourcentage, comment vit le modèle économique extraterrien? Est-ce que c'est... Et dont le fondement initial, c'est quand même à réussir à driver une communauté qui t'écoute, donc vraiment un business de médias pur et dur, quoi.
Ouais. Et bien écoute, on a trois sources de revenus aujourd'hui. Donc la première, qui est effectivement la plus importante, qui représente un peu plus de 50% des revenus, c'est vraiment le travail qu'on peut faire avec les marques sur de l'espace publicitaire. Alors on le fait de deux façons différentes, soit avec de la vente d'espace, comme on le disait avec l'espace publicitaire au début des podcasts, soit directement intégré en brand content. Donc tu vois, on a trois gros clients avec qui on travaille de manière très récurrente.
On peut les citer et les remercier.
Ouais, on peut citer effectivement les remercier. Il y a Puma, effectivement, pour la partie équipementier, sur notamment, on les aide à développer sur la partie running, sur la partie fitness. Voilà, donc on s'adresse surtout à des pratiquants. Nous, on n'est pas du tout sur des fans de sport, et ça, c'est important de le préciser, parce que beaucoup de médias ont une audience fan de sport et non pratiquant de sport. Et là, on voit qu'on est à un air où il y a un shift, il y a de plus en plus de pratiquants qui veulent améliorer dans leur pratique. Donc voilà, ça c'est la première source de revenus. Ensuite, on fait du travail en marque blanche, donc de création de contenu, qui va représenter 30% des revenus. Et là, voilà, comme je te disais, on a lancé trois podcasts de marque. Là, on peut pas les citer parce que c'est des podcasts internes. Alors c'est avec des partenaires des jeux. D'ailleurs, je sais pas s'il y a une opportunité, on en reparlera. mais le but, c'est de présenter les athlètes en interne auprès des salariés, auprès des collaborateurs, mais aussi auprès des clients, des partenaires. Parce que, on le sait, il y a le choix des jeux, c'est d'être très inclusif. Mmh. Donc beaucoup d'entreprises accompagnent aussi des athlètes paralympiques, des athlètes aussi parfois plus jeunes, moins médiatisés. Mmh. Et le but, bah, c'est au moins d'engager le plus possible les équipes à travers ce biais-là. Et le podcast est un excellent moyen de le faire parce que sur ton vélo taf, tu peux écouter 10-15 minutes sur l'athlète que ton entreprise sponsorise. Et je trouve ça assez chouette à faire comme contenu pour les entreprises. Donc si jamais vous soutenez des athlètes, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, et en plus, ben, voilà, y a une dynamique qui est peut-être un petit peu plus simple que quand tu fais un contenu public.
Ouais.
Voilà, et enfin, la dernière source de monétisation, entre 20 et 25%. Alors là, c'est complètement différent. C'est effectivement venu un peu de l'opportunité de beaucoup de créateurs qui sont venus à moi en me disant, bah, tiens, t'as commencé tout seul dans ta chambre et aujourd'hui, t'es en train de développer un vrai média avec, où tu bosses avec tes premiers salariés, tes premiers freelances, t'es en train de créer une équipe. J'ai envie d'apprendre à faire la même chose. Est-ce que tu peux me transmettre? Et du coup, on a formé cette année je crois 92 créateurs de podcasts à monétiser leur contenu en trouvant des sponsors.
Et qui t'ont payé une formation du coup.
Exactement, et du coup pour lequel on vend une formation. Et moi, comme j'avais ce biais en fait d'avoir déjà travaillé d'accompagner des entrepreneurs avec School Lab précédemment, j'aime faire ça. J'aime accompagner les autres, j'aime aider des petits projets à se lancer. Et c'est aussi un modèle économique que je connais, que je sais vendre.
Ouais.
Donc ça a été assez facile pour moi à modéliser, à lancer. Ouais. Et ça a très bien marché, puisqu'en quelques posts LinkedIn sur les réseaux sociaux, on a ouvert notre première cohorte avec... on était plein en 4 jours. Donc, donc voilà, et ça me tient à cœur. Et ça me permet aussi de rester en contact sur d'autres opportunités de monétisation, parce que je vois maintenant d'autres créateurs dans d'autres écosystèmes
qui
arrivent.
Tu penses à quoi,
Je vois des créateurs qui ont lancé, tu vois, des modèles par abonnement ou de contenu un peu premium. Ouais. C'est quelque chose que moi, forcément, j'ai très envie de faire, de monétiser directement auprès de l'audience, mais j'avais pas forcément les idées de contenu à faire.
Mmh.
Et là, en fait, de voir, j'ai une centaine de créateurs qui me font leur retour. Et donc, je vois directement les types de contenu qui marchent le mieux auprès des audiences.
Mmh.
Et je le vois, donc c'est soit des contenus très divertissants, où du coup, le créateur se permet directement de parler de façon avec la langue bien pendue, de parler vraiment à bâton rompu, quitte à un peu casser du sucre sur d'autres partenaires de l'écosystème, dans leur monde en tout cas, ou des contenus très pédagogiques avec une très forte valeur ajoutée, et ça marche très très bien avec les contenus d'expertise. Donc nous, ça nous donne d'autres idées en fait à voir.
Et là, c'est quoi les plateformes? C'est OnlyFans ou Mime qui proposent c'est ce genre de truc, où tu as un abonnement à des créateurs qui proposent un contenu exclusif?
C'est le gros point noir aujourd'hui pour les créateurs audio, parce que Apple a lancé son propre écosystème, mais c'est que sur Apple, et Spotify est en train de prendre une grande part de marché sur les écoutes. Le deuxième outil qui est très utilisé, c'est Patreon. Le problème de Patreon, c'est que, alors aux dernières nouvelles, désolé si je me trompe, mais si notamment tu veux créer un contenu audio privé, tu ne peux pas avec Spotify.
Okay.
Et Spotify, encore une fois, est en train de gagner des parts de marché.
Mm-hmm.
Après, les hébergeurs proposent effectivement de plus en plus de le faire. Donc, les hébergeurs de podcast, donc là, on va rentrer dans la technique, c'est pas forcément très intéressant. Mais là, pareil,
Ocha, Acast et tout ça.
Exactement. Ouais, mais pour citer les deux plus gros en France aujourd'hui, plus AudioMins, on les embrasse, ils sont français. y a toujours des problématiques de diffusion et de distribution qui sont douloureuses. Donc aujourd'hui, effectivement, OnlyFans peut être une bonne solution, mais ils ont une connotation qui est quand même particulière, malheureusement. Donc si vous avez des solutions, franchement, contactez-moi sur LinkedIn, je suis hyper intéressé. Une des solutions serait effectivement probablement d'utiliser Patreon, mais de ne pas utiliser le contenu premium sous format audio.
Ouais, okay.
Sinon, tu prives une partie de ton audience.
Ouais. Il y a un peu un double discours quand je t'entends. Tu dis j'ai créé un média, on crée un média, c'est un média. Et en même temps, j'ai l'impression que tu as aussi le discours de la créateur économie, et donc tu es un créateur. Et donc les marques... les mecs qui veulent suivre ton bootcamp ou ils veulent ta patte, ils veulent Bart, et ils veulent pas le média. Est-ce que tu comprends un petit peu où est-ce que je veux en venir? C'est que Comment tu fais pour, si tu veux grossir et scaler et que tu n'as que 24 heures dans une journée, tu pourras pas. Comment tu comptes gérer cette dichotomie entre tout repose sur toi et ta personnalité,
ouais.
ton grain de voix dans l'audio, ta capacité à ressortir des choses à la Mireille Dumas pour les gens un peu plus âgés. comment tu vas gérer potentiellement ça?
C'est une très bonne question et c'est un challenge que je dois relever aujourd'hui actuellement parce que les clients veulent me parler, que ce soit ouais. les marques ou les clients créateurs. Et je peux être par moment le bottleneck de ma boîte.
Ouais.
Donc là, on est encore à une taille un peu trop petite et pour tu vois, recruter une personne à la direction générale ou à la direction des opérations.
Ouais.
Mais c'est quelque chose que je vais faire probablement dans les 18 mois qui ouais. vont venir et qui va être nécessaire pour moi. Ça, c'est important. Moi, mes talents, c'est pour communiquer, lancer des projets, les bootstrapper et les vendre. Et ensuite, effectivement, pour les pérenniser, les optimiser, c'est pas forcément moi qui vais être la personne la plus talentueuse. Je le ouais. fais aujourd'hui parce que c'est nécessaire, c'est ma boîte.
Ouais.
Mais ça peut être un peu douloureux par moment. Tu
ouais.
vois. Donc, comment, pour répondre à ta question sur le comment, la première réponse, c'est de s'entourer, je ouais. pense. La deuxième, c'est de créer une marque très forte, et je pense qu'on est en train de le faire avec Extraterrien,
ouais.
et de commencer à lancer des formats sur lesquels je n'interviens pas.
Ouais.
À la différence, effectivement, d'un Squeezie dont on voit effectivement le ouais. reportage.
J'ai pas vu, ouais, mais il faut que je le voie.
Ah, je te le recommande mille fois parce ouais. que c'est. Moi, j'ai complètement changé ma perception de valeur par rapport ouais. à Lucas. Bravo à lui pour ce qu'il fait. Et en fait. Déjà, moi, ma vision de la créateur économie, c'est que, effectivement, je pense que les créateurs vont prendre une grosse part sur l'espace médiatique.
Mmh.
Que moi, je crois à un modèle hybride où, en fait, les créateurs soit s'associent avec des médias existants, soit créent leurs propres médias sur lesquels ils sont un petit peu le visage d'un espace médiatique, mais sur lequel ils peuvent créer aussi d'autres contenus indépendants d'eux-mêmes. Mmh. Ça, j'y crois de plus en plus à ça, et ça nécessite effectivement de placer une marque forte. Tu vois, si demain, Squeezie lance une marque de vêtements, mmh. je pense que...
Il en a déjà une.
Il en a déjà une
ouais.
Bah, je suis sûr à 99% qu'il n'y... Il contribue à 1% de la valeur ajoutée,
ouais.
tu vois, aujourd'hui. Enfin, non, il a l'audience,
ouais.
mais toute l'opération derrière, c'est ouais. très très peu. Donc, c'est ça, tu vois, c'est lancer des produits qui dépendent pas de toi.
Ouais.
Et nous, on est en train de le faire, tu vois, sur la partie formation. Au début, moi, j'ai donné en présentiel. Aujourd'hui, c'est que de la vidéo et,
ouais.
et j'ai une personne qui s'occupe de la vente. Et donc, c'est en train de déléguer. Sur la partie agence, effectivement, j'ai recruté un chef de projet pour qu'une fois que ça soit vendu, ça nécessite plus que ouais. je sois là. Et sur la partie média, on vient de lancer nos premiers formats sur lesquels je n'interviens pas.
D'accord.
Donc c'est mais c'est
un sujet ouais.
Ouais, c'est
je te recommande, je sais pas si tu l'as écouté l'épisode d'Alexandre Mars avec Hugo Décrypt. Tu devrais écouter parce que
ouais,
en t'écoutant et en connaissant un petit peu ton business on est sur une autre échelle avec Hugo Décrypt, mais ils sont quasiment 30 je crois dans sa boîte, enfin c'est un
ah,
truc
non, ouais, ouais.
Mais il traite de ce sujet avec Alexandre Mars sur comment tu fais pour dépersonnaliser, désincarner quelque chose qui est très, 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 très incarné pour lui, quoi.
Ouais.
Tu voulais peut-être rebondir sur ça, non?
Non, mais je pense que Hugo est effectivement un des meilleurs exemples de ça sur la scène de la créateur économie aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est un vrai rôle modèle pour moi également, donc je vais écouter avec grand plaisir.
Tu disais recruter... Et puis, tu as aussi dit après, créer une marque forte. Tu as un nom et une marque, en tout cas, qui est très aligné avec ce que tu produis. Ton principal produit est très aligné avec ce nom. Comment tu fais pour créer une marque forte? Est-ce que tu multiplies les touchpoints? C'est quoi ton idée quand tu dis créer une marque forte?
Déjà, c'est effectivement multiplier les touchpoints avec le nom de la marque.
Mmh.
Ensuite, c'est être capable de la décliner. Nous, ce qu'on a envie de décliner, c'est effectivement... extra et en fait enfin le préfixe extra et de pouvoir le mettre un petit peu
ouais.
à toutes les sauces.
Extra média, extra prod, extra bootcamp, tu m'as envoyé ton deck, c'est mais ouais, c'est top.
exactement et donc c'est comme ça qu'on a envie en tout cas de garder la marque. C'est aussi de mettre selon moi beaucoup en avant le plus visible, tu vois, et, à savoir le média.
Ouais.
Et le média, c'est un merveilleux territoire d'expression qui permet aussi de générer beaucoup d'opportunités. Et ensuite, c'est être capable de la décliner sur tous les canaux, en audio, en vidéo, en visuel. Donc ça, c'est un travail que je suis en train de mener et qui est très compliqué. C'est le penser dans les moindres détails aussi. C'est quelque chose que j'aime bien faire et aussi qui est un travail de longue haleine tout seul. Ouais, c'est à peu près ça.
Ouais.
Mais si d'ailleurs, s'il y a des spécialistes de marque, je suis très curieux de les entendre, quoi.
Tu fais beaucoup d'appels, tu sais.
Ouais, toujours. Mais c'est un truc, je me rends compte que beaucoup de créateurs ou d'entrepreneurs font très bien.
Ouais.
C'est-à-dire en permanence lancer des
bouteilles à la mer.
Ouais, des bouteilles à la mer et des perches, et ça fonctionne.
Ouais.
Donc,
écoutez, n'hésitez pas à contacter Bart. Hein. Souvent, je pose la question des indicateurs que les entrepreneurs suivent. Toi, c'est quoi qui anime ton tableau de bord quotidien, hebdo, mensuel Alors, évidemment, tu vas me dire le chiffre d'affaires, mais est-ce qu'il y a des KPI qui seraient assez symptomatiques de ton business et de ton modèle que tu pourrais un peu partager, ce que tu suis régulièrement?
En tant que média, on suit les audiences sur toutes les plateformes. Ça, c'est crucial pour nous, forcément. Ce que je vais regarder également, ça va être beaucoup les taux de rétention sur nos contenus. Et je pense que c'est une...
Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le taux de rétention ?
C'est tout simplement le temps, enfin en tout cas le pourcentage, on l'appelle aussi le pourcentage de complétion, mais grosso modo, c'est le ratio entre le temps que l'audience va consommer un contenu versus le temps de temps du contenu.
Ouais.
Et je trouve que c'est un KPI qui est très 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 peu mis en avant par les médias de manière générale, qui parfois dope un peu leurs audiences, ne montre pas du tout le taux de rétention parce que ça va être des audiences très dopées.
Un gros drop. Ouais.
Ouais, exactement, il y a un très fort drop. Ça coûte très peu cher de faire 100 000 vues sur YouTube.
Ouais.
Aujourd'hui, il suffit de dépenser quelques centaines d'euros et on fait 100 000 vues sur YouTube. Par contre, faire regarder une vidéo plus de 10, 15, 20 minutes sur YouTube, ça, c'est un vrai travail d'orfèvre.
Ouais.
Donc nous, c'est ce qu'on regarde sur nos podcasts, sur nos formats sur YouTube, aussi sur Instagram qui commence à partager cette matrix.
Mm-hmm.
Donc on le regarde beaucoup, on le met en avant. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans nos argumentaires de négociation avec nos partenaires, c'est qu'on ne vend pas une taille d'audience, on vend un temps d'attention.
Ouais.
Et en fait, nous, sur des épisodes qui vont durer 1h30, sur lesquels on a un taux de rétention moyen qui est entre 1h et 1h05, transformer 1h en secondes, multiplié par le nombre d'auditeurs qui nous écoutent, c'est plusieurs dizaines de millions de secondes d'attention versus des stories que les viewers, tu vois, vont regarder 2 secondes sur Instagram. C'est nos chiffres sont là deviennent comparables et deviennent très intéressants. Et notamment, ce qui est intéressant dans le podcast et sur les formats un peu plus inspirationnels, c'est qu'on touche l'audience sur des moments très intimes, sur un moment où ils sont en dehors du scroll. Ça permet de passer des messages beaucoup plus puissants, en tout cas selon moi, et de rentrer dans l'inconscient, en tout cas de l'audience, beaucoup plus fort, et de créer un attachement de marque beaucoup plus puissant. Donc nous, c'est ce qu'on prône. Ce qu'on vend pas, de toucher 1 million de personnes.
Ouais.
Ce qu'on propose, c'est auprès de 50 000 pratiquants de sport de devenir top of mind.
Ouais.
Et ça, je pense qu'on devient parmi les meilleurs pour le faire.
Ouais. Donc nombre d'écoutes, rétention hyper important en effet. C'est clé parce que ça dit de la qualité de ton contenu puisque les gens restent engagés longtemps sur ton contenu. Donc une marque veut être associée à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu suis?
C'est une bonne question. Moi, j'ai suivi des trucs en interne, mais c'est plutôt de la vente, tu vois. Le temps que je passe avec un prospect, qui est très long. Pourquoi ? Parce que, notamment, dans l'écosystème des médias, on essaie d'avoir beaucoup d'avance.
Ouais.
Là, tu vois, on se voit, on est au mois de février.
Ouais.
On est en train de boucler les formats pour les Jeux Olympiques,
ouais.
Qui vont sortir, tu vois, sur juillet, août, septembre. On est 6 mois à l'avance. Ouais. Donc, le temps de contact, le temps de prise de contact et de négociation, il est hyper important. Le nombre de touchpoints avec un prospect, il est fondamental.
Ouais.
Et il peut faire couler une boîte, en fait.
Ouais.
Donc, ça, on le regarde beaucoup. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? On regarde le taux de remplissage de nos espaces publicitaires,
ouais.
Qui parfois est un vrai sujet parce que on a vu en tout cas dans l'écosystème des médias et notamment de l'audio beaucoup d'annonceurs qui sont sortis au dernier moment ou qu'on voilà rendu les négociations très très dures en last minute là avec des youtubeurs, des influenceurs, des médias indépendants, des gros médias aussi. Donc les 6 derniers mois ont été véloces, on va dire. Enfin non, pas véloces.
Féroces.
Plutôt féroces, ouais, plutôt féroces, je sais plus. Voilà. Voilà un petit peu ouais, ce que je regarde.
Ouais. Tu as fait une petite transition sur les Jeux Olympiques. Donc évidemment, c'est une année clé pour toi, je suppose, en termes de croissance, de revenus, parce qu'il y a l'avènement des Jeux.
Ouais.
On se voit aujourd'hui au moment où on révèle le design des médailles de Chaumet, qui a été fait par une maison du groupe LVMH. Et ce qu'on se disait avant d'allumer les micros, c'est que tu as finalement accueilli beaucoup de gens qui vont peut-être avoir des médailles ou qui ont déjà eu des médailles olympiques. Moi, ce que je voulais savoir, c'est parmi les invités... que tu as eu, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement inspiré, marqué? Alors tu vas me dire, mais je vais pas dire l'un ou l'autre, mais si tu peux pas trop citer ça, au moins qu'est-ce que tu as appris d'eux finalement pour ton business, c'est les enseignements clés que tu as reçus grâce à tes interviews d'1h à 1h30?
C'est difficile de résumer plus de 250 interviews, mais je vais me plier à l'exercice. Déjà, le pouvoir des petites habitudes, je pense que c'est un truc tout bête, mais qu'on n'essaye pas de, enfin qu'on répète pas assez en fait à quel point des micros habitudes créent des grands changements à long terme. La deuxième chose, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont un carnet d'entraînement et je pense que très peu d'entrepreneurs ont un espèce de journal intime ou un carnet de bord où ils vont noter tous les jours leurs succès, leurs échecs, leurs apprentissages, leurs ressentis.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place moi et qui m'a transformé.
Ah
tu
ouais.
vois, où je note. Maintenant, j'ai un petit framework avec que j'appelle d'ailleurs LMFAO.
c'est drôle.
Libre, donc j'écris des choses libres. Merci, donc c'est de la reconnaissance. LMF, fierté. Ensuite, mes 3 fiertés du jour. A, mes 3 apprentissages. Et haut mes 3 objectifs du jour, tu vois.
Ouais.
Donc ça me prend 10-15 minutes et ça fait un bien fou en fait de le corréler. Je traque aussi énormément mes habitudes parce que tout, il y a de plus en plus d'athlètes qui rentrent dans la donnée et qui en fait se rendent compte que on ne peut pas avoir une vision claire de la performance si on ne la mesure pas. Et du coup, mesurer à la fois effectivement les résultats mais aussi mesurer les inputs. Moi, je vais noter le nombre d'emails commerciaux que j'écris par jour, le nombre de temps que j'ai passé avec mes équipes sur la création de contenu par jour, des choses un peu comme ça, mais aussi le temps de sommeil, est-ce que j'ai bien pris mes vitamines.
Enfin, ouais.
Ça, c'est des choses importantes. Après, il y a des trucs un peu en termes de mindset, mais qui sont assez simples, mais c'est... Si tu te répètes 10 minutes dans la glace tous les jours que tu vas être champion olympique, t'as beaucoup plus de chances de le devenir que si tu ne le fais pas. Donc c'est vraiment incarner l'identité de ce qu'on a envie de devenir et de se comporter comme si on l'était déjà. Oublier le regard des autres. Je vois que beaucoup d'athlètes, en tout cas, qui ne sont pas champions dans la durée, souffrent de ce syndrome... d'identité vis-à-vis du regard des autres. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi?
Non, mais c'est déjà pas mal.
Je t'en fais beaucoup
ouais,
là,
c'est des petites choses,
tu vois.
Mais
il y en a tellement en fait.
Ouais.
Il y a tellement de choses qu'on pourrait retirer. Et souvent d'ailleurs, on tire pas. Enfin, moi, les plus gros enseignements, je les ai pas forcément tirés des grands champions parce qu'ils ont complètement assimilé dans leur identité tous ces petits curseurs, mais à l'inverse, ceux qui ont passé des gaps, tu vois, ou ceux qui ont passé des paliers en appliquant ces méthodes-là, ça devient beaucoup plus intéressant.
Ouais.
Parce que, en fait, initialement, ils n'avaient pas ça dans leur,
ouais.
dans leur cœur.
Ouais.
Et un des plus beaux épisodes, je t'en cite un quand même, parce que c'est un épisode incroyable. C'est Tiffany Huot-Marchand, elle fait du short track, donc des courses de patinage sur glace. Sport très peu médiatisé, il faut s'accrocher, ça coûte cher, beaucoup de déplacements pour très peu de revenus. En octobre 2022, durant une course, elle décroche, enfin, son adversaire décroche dans un virage, elle se prend à plus de 100 km/h le mur.
Ouais.
Fracture de deux cervicales. Son médecin lui dit, vous ne marcherez plus jamais.
Ouais.
Opération sur la moelle épinière, enfin truc très fort, et elle passe en fait ses journées à se répéter je vais marcher, je vais patiner, je vais marcher, je vais patiner, et 6 mois après elle arrive à courir.
Ouais.
Alors que les médecins étaient formels. Ouais. Et le pouvoir de ça, c'est que la pensée crée notre identité. Ouais. Et que ça, moi ça m'a fait vibrer en fait de me dire ça.
Alors du coup, c'est quoi la pensée de Bart quand il se projette dans 5 ans pour Extraterrien ? Ça va ressembler à quoi, à Extraterrien, dans 5 ans ? Il se répète quoi tous les jours devant sa glace ?
Un empire. Un empire avec une agence, une boîte de prod, une régie, effectivement, probablement une agence aussi pour accompagner les créateurs, parce que c'est avec eux que j'ai envie de lancer cette histoire. Et moi, je crois fondamentalement en l'émancipation des créateurs sur tous les écosystèmes. Voilà. Et
tu dis toujours sectoriser sport, ou tu t'imagines aller sur sport, bien-être, etc. Mais
santé, développement personnel, santé mentale, et entrepreneuriat aussi. Parce que je pense que c'est plusieurs écosystèmes sur lesquels il y a beaucoup de passerelles.
Ouais.
Ils sont très liés, en fait, les uns les autres. Entre performance, équilibre et performance sportive et intellectuelle.
Ouais. Voilà. Ok, un empire dans 4-5 ans qui est en effet...
Un petit empire.
Pour y arriver... La plupart des gens que je reçois ici, parfois ils font des levées de fonds, parfois ils sont autofinancés, parfois ils sont un peu des deux. Enfin, c'est l'une étape qui précède l'autre. Toi, t'en es où sur la partie financement de la boîte comment vous vivez aujourd'hui combien vous êtes explique-nous un petit peu les entrailles financiéro-économiques d'Extraterrien et comment tu vois cette construction d'empire, plutôt en autofinancement ou plutôt du coup aidé par de la dette bancaire ou de la levée de fonds. Enfin, comment tu vois les choses?
Ouais, c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, on fait travailler plus d'une petite dizaine de personnes en tout. Mmh. Trois personnes à plein temps et le reste à mi-temps, plus moi quand même. Donc c'est 4 personnes. On va dire, allez.
Toi, c'est 3 plein temps, toi.
voilà. On est un modèle 100% autofinancé, pas encore de dette bancaire. On a un modèle, pour avoir rencontré quelques financières, qui fait assez peur, puisque le besoin de fonds de roulement parfois peut être important, qu'on diversifie aussi nos sources de revenus. Je connais très bien le modèle de la levée de fonds pour avoir accompagné certains entrepreneurs, et je sais que on n'est pas encore assez
robuste.
Robuste peut-être effectivement pour intéresser des potentiels investisseurs dont le but ne serait potentiellement pas de faire une culbute, mais plutôt de mettre un pied en fait sur un espace médiatique. Donc ça se ferait essentiellement avec des entrepreneurs ou des marques dans le monde du sport et qui auraient un intérêt direct à travailler avec notre audience. Donc ça se fera plutôt, si tu veux, par un accompagnement. Si ça se fait par un accompagnement capitalistique, ça sera directement intéressé.
Ouais.
Et le modèle bancaire, où à terme, j'y crois pas, tu vois. Enfin, il n'y a pas d'horizon possible à 18 mois pour nous, je pense. Mm-hmm. Donc, ou en tout cas pour des petits tickets qui ne seraient pas assez significatifs pour qu'il y ait un vrai changement.
Voilà. Ok. Cool, on arrive vers les questions de la fin. J'ai une question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur le projet Extraterrien ?
Ah, c'est intéressant. ce qui me rend très optimiste, c'est que les audiences se développent super bien, que Le podcast est un média premium et ça reste notre format cœur. On a beaucoup parlé podcast, mais on a développé beaucoup d'autres formats.
Ouais.
Donc notre cœur de format est écouté par des dirigeants, des catsup, des décideurs, des décideuses. Donc c'est très très rassurant. La deuxième, c'est moi je crois en moi et je crois en ma capacité à saisir les opportunités et que on rentre de plus en plus dans un monde où l'attention, l'audience devient primordiale pour une entreprise, quelle qu'elle soit en fait. Donc ça, j'y crois beaucoup. Qu'est-ce qui me rend un petit peu pessimiste ? Je ne suis pas particulièrement à l'aise avec le monde des médias,
ouais.
dans lequel j'ai vu des pratiques très
discutables.
Ouais.
Tu penses à quoi ? Si c'est disciple.
Bien sûr. Pour être tout à fait honnête, hein, y a énormément de personnalités, plutôt du côté d'ailleurs éditorial, qui ont des mots très durs vis-à-vis des créateurs.
Ouais.
Voilà. Il y a un vrai dénigrement, je trouve, de certains. Comment on appelle ça de certains médias et de certains journalistes vis-à-vis de la créateur économie.
Ouais.
Et effectivement, ce passage de Squeezie chez Thierry Ardisson fait froid dans le dos. Mmh. Et malheureusement, c'est des langages ou des incompréhensions qu'on retrouve toujours autant.
Ouais.
Voilà. Ensuite, beaucoup de trafic d'audience.
Mmh.
Par trafic, donc,
ah oui.
de déformation d'audience.
Mmh.
Voilà, c'est beaucoup d'audiences qui sont fausses, qui sont déformées,
mmh.
avec des faux auditeurs, mmh. des faux viewers.
Ouais.
Ça, je le vois énormément. Voilà, et ça, c'est dommage.
Ouais.
Il y a des médias qui ne le font pas, il y a des médias qui le font très bien, mais ça reste malheureusement, voilà. Et c'est plutôt un peu le symptomatique de tout l'écosystème, c'est aujourd'hui... le monde des médias, et c'est pour ça que nous on crée d'autres business à côté, c'est que on dépend des audiences, et que dépendre des audiences, ça veut dire accepter une croissance qui va à la vitesse des audiences,
ouais.
accepter des fois une décroissance.
Ouais. Ce que tu dis pas, c'est que tu dépends des plateformes qui diffusent ton contenu aussi.
Et donc voilà, ouais. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
Ouais.
Tu dépends aussi d'un climat économique dans lequel les marques se retirent très vite si l'actualité est très mauvaise. Donc c'est un secteur qui est quand même assez instable, sur lequel il y a beaucoup de rebondissements, et qui crée en fait un espèce de stress qui fait que certains médias peuvent avoir tendance soit à tricher, soit à être un peu médisants sur leurs concurrents. Et je vais essayer, en tout cas, moi, c'est un de mes challenges, d'avoir une parole de plus en plus impeccable. Je suis factuel, je dis des choses que j'ai vues et je ne cite personne. Voilà.
Très bien. Autre question avant de se quitter. Quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention récemment ?
J'ai envie de passer un coup de gueule contre effectivement l'actualité que je vois contre Tony Estanguet.
Ouais. On se parle au moment où il y a une enquête sur la rémunération de Tony Estanguet qui soi-disant dépasserait certains quotas de rémunération. Voilà. Mmh. Et donc, pourquoi tu veux tirer un coup de gueule sur ce sujet ?
Parce que effectivement, dans le monde de... pourquoi je tiens un coup de gueule, c'est pourquoi faire ça à 6 mois des Jeux. Et je suis un peu fatigué d'être dans un pays dans lequel on passe beaucoup de temps à essayer de se mettre des bâtons dans les pattes. C'est un événement qui va être fondateur pour la France, je pense, sur les 5-10 prochaines années. Et c'est le moment de serrer les coudes, de faire preuve de un peu de solidarité nationale,
ouais.
et de taper sur... une figure emblématique du sport et sur une institution aussi noble que sont les Jeux politiques, dans laquelle effectivement tout ne peut pas être parfait.
Ouais.
Voilà. Si on doit laver du linge sale, faisons-le après. Mais d'abord, essayons de faire un événement fabuleux, merveilleux, parce que on passe plus de temps, malheureusement, à critiquer cet événement, à critiquer les gens qui essayent de le faire, plutôt qu'à le faire.
Ouais.
Et c'est beaucoup d'énergie perdue et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, moi, je félicite tous les gens qui travaillent à Paris 2024. Ils vont essayer d'avoir 6 mois exceptionnels, de faire un événement de dingue, et j'ai envie de les soutenir. Ouais. Voilà.
Bah, très bien. Je rajouterai juste un élément à l'édifice. Donc, le groupement qui est derrière le COJO est un groupement qui est financé à 96% par des fonds privés.
Ouais.
Et non de l'argent public, comme il se dit toujours un petit peu dans la presse. Et deuxièmement, Tony Estanguet, il gère un budget de 4 ou 5 milliards. Il n'y a pas beaucoup de grands dirigeants d'entreprises qui ont ce faible niveau de rémunération par rapport à un budget de 4 ou 5 milliards. Évidemment, il est très bien payé par rapport au commun des Français, mais il faut aussi mettre les choses en perspective, déjà sur la structure du groupement d'intérêt. Et ouais. Ensuite sur la corrélation entre ce qu'il fait et le budget qu'il gère et sa rémunération. Bref,
je suis tout à fait aligné avec toi. merci de le dire. Voilà.
Écoute, c'est la dernière question, mais c'est un peu la question piège. C'est qui t'aimerais entendre dans un podcast comme celui-ci ? Ce qui veut dire que tu vas me dire qui tu vas pouvoir me mettre en contact et qui tu vas pouvoir me mettre en contact. Mais bon, tu vas me dire.
J'allais te dire quelqu'un que je peux pas contacter moi-même, tu vois, pour avoir les.
Ok, bah vas-y, tu peux y aller quand même. Non, mais...
les infos.
Mais tu penses à qui, justement, que t'as pas dans ton reach, mais que t'aimerais entendre dans un podcast comme celui-ci, qui est assez orienté business.
Écoute, Thomas, le fondateur du média Les Others,
pas difficile.
Je pense que tu peux avoir très facilement.
Je le connais très bien, mais j'ai jamais eu l'idée de l'inviter.
Et effectivement, alors il n'est pas dans l'écosystème sport à proprement parler, mais je pense que tu vois, il peut aussi avoir des connexions entre le sport et l'inspiration, la nature, tu vois, qui sont assez évidentes.
Ouais.
Et lui, il a réussi avec effectivement une boîte autofinancée, avec beaucoup de passion, à faire un média très noble, très beau. Et
en plus, venant du print.
Ouais, exactement, en plus venant du print. Donc, je trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup les modèles loin du mien, tu vois, et ils prennent des trajectoires qui sont différentes, avec des choix différents, donc ça m'intéresse beaucoup.
Ouais, après, je pense que c'est plutôt un modèle qui est une bonne inspiration pour toi, parce que créer une audience sur un seul canal qui était le print, et ensuite ils ont diversifié en boîte de prod, ils se sont mis à la vidéo, enfin non, c'est en effet mais je vais carrément inviter Thomas, de ouf.
Et voilà, est-ce que je peux te dire un deuxième nom auquel je pense là, pourquoi pas un très très gros créateur dans le monde du sport, tu vois, un Thibaut InShape, je serais très content.
Ouais.
Ou sinon peut-être Nassim Saïli ou Eric Flagg, tu vois, qui sont des youtubeurs à plus d'un million d'abonnés, qui touchent des audiences très fitness, mais qui sont aujourd'hui des véritables businessmen avec plusieurs sociétés, des sociétés de production, des sociétés de compléments alimentaires, des sociétés de vente de programmes de formation.
Ouais, carrément.
Nassim, véritable entrepreneur, passionnant et qui est là depuis 10 ans, donc c'est un mec stable, je suis sûr que ça pourrait intéresser et que tu pourrais les poser des questions qu'on lui a pas posées autre part.
Voilà. Cool. Et j'ouvre le chapitre créateur économie grâce à toi, Bart, donc plaisir pour inviter ces personnalités. Merci infiniment pour ce temps passé et longue vie à Extraterrien.
Merci.
ciao.
Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.